Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, premier service de transfert d'argent et de paiement mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Vous nous appelez et vous commentez l'actualité. Bienvenue, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. Dans 30 minutes, nous parlerons d'économie et de commerce. Comment développer les exportations entre pays africains? Car contrairement à l'Asie et à l'Europe, eh bien l'Afrique souffre de formalités douanières trop lourdes qui entravent le commerce entre pays africains. Du coup, pour faciliter les exportations, 26 pays du continent ont décidé de créer un marché commun regroupant l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, soit un marché de plus de 600 millions d'habitants. Et le traité de libre-échange qui sera signé dans quelques heures en Égypte offrira de nouveaux débouchés aux produits nationaux. À terme, il permettra d'accélérer l'industrialisation de ces 26 pays et donc de créer des emplois. Alors que pensez-vous de ce nouvel ensemble économique? À quand un marché unique pour l'Afrique? Et on élargira le débat. Dites-nous comment accroître finalement la place des produits africains dans le commerce international. 33 9 693 693 70. On vous attend également sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, c'est votre rendez-vous quotidien avec les journalistes d'RFI, toute la rédaction pour répondre à vos questions, mieux comprendre, mieux décrypter les sujets que nous traitons dans nos différents journaux. La première question nous vient de Côte d'Ivoire. Célestin, bonjour.
Bonjour, Juan.
Bienvenue. Vous nous appelez d'Abidjan. Vous avez des questions sur la crise politico-familiale qui secoue le Front National depuis plusieurs mois.
Oui. Moi, j'ai apprécié ainsi que M. Jean-Marie Le Pen a porté plainte contre le Front National dont il est le président d'honneur. La question est la suivante. Quel suivi judiciaire, la justice française, peut-elle donner à cette plainte? Quel peut être le poids politique réel de la formation concurrente? Monsieur Le Pen,
veut-il créer? Oui, c'est vrai. Surtout ne raccrochez pas. C'est vrai que Jean-Marie Le Pen veut créer sa propre formation. On va voir tout ça avec Pierre Firsion, journaliste au service politique d'RFI. Bonjour Pierre.
Bonjour Juan.
Alors, le mois dernier, on s'en souvient, Jean-Marie Le Pen avait promis la guerre après avoir été suspendu de son statut d'adhérent du Front National. Il est passé à l'acte puisqu'il a effectivement décidé de poursuivre le Front National en justice. Bon, en même temps, il faut dire que Jean-Marie Le Pen est un procédurier.
Un procédurier, ça, il a toujours été comme ça. Ouais. Et d'ailleurs, son entourage aujourd'hui nous le confie un petit peu à mon couvert, ou du moins son ancien entourage, ceux qui étaient ses proches par le passé, le disent, c'est un procédurier, il ira jusqu'au bout. Je pense qu'il y a deux aspects. C'est vrai qu'il va en justice aujourd'hui contre, on va voir si ça sera son ancien parti, mais il va en justice contre le Front National. Et à côté de ça, c'est vrai qu'il y a eu cette l'idée lancée le mois dernier de créer une formation. Alors, très vite, on s'est dit qu'il allait créer une formation concurrente et que alors ça a commencé à, entre guillemets, faire un petit peu de buzz, ouais, sur Internet. On s'est dit, ça y est, il va partir pour la présidentielle. Et en fait, très vite, c'est la raison est revenue. D'ailleurs, je crois que lui-même n'a jamais pensé et n'a jamais vraiment évoqué une telle idée. En fait, ce qu'il a dit au départ, c'était qu'il voulait créer une formation. Et ce qu'on nous disait un petit peu dans son entourage, c'était qu'en gros, il voulait compter ses soutiens, voir qui il avait autour de lui.
Enfin, et il disait attendre quand même des centaines, voire des milliers d'adhérents.
Oui, bon, ça c'était l'idée de départ, peut-être un petit peu sur le coup de la colère, mais je pense que c'était pour voir qui il avait encore, à la fois au sein du Front National et puis à l'extérieur, notamment ses anciens amis, s'ils étaient toujours là. Et en plus, ses anciens amis, pour certains, qui sont partis fâchés. On pense par exemple un peu à Roger Hollindre, qui est pas parti fâché avec Jean-Marie Le Pen, mais qui est parti fâché avec sa fille. Bon, on peut penser à Karl Lang, par exemple, des gens qui étaient là dans les années 80-90. Et en fait, bon voilà, il voulait un petit peu compter ses amis, et très rapidement, il a dit, finalement, cette formation que je veux créer, elle ne sera pas concurrente, ouais, du Front National. Aujourd'hui, ce qui se dessine a priori, ça sera plus qu'une formation politique en elle-même, ça sera plutôt une association. Certains disent, pourquoi pas l'association des amis de Jean-Marie Le Pen, ou l'association de Jean-Marie Le Pen, voire, c'est ce que propose par exemple Bruno Gollnisch, un think tank, un club de réflexion, où on échangerait un petit peu, il y aurait un petit peu de débat. Tout ça, vous avez bien compris, c'est pour exister médiatiquement qu'il aimerait le faire. On va voir s'il va le faire. A priori, pour l'instant, c'est pas forcément la priorité du moment pour Jean-Marie Le Pen.
Alors, à quoi peut aboutir la plainte de Jean-Marie Le Pen contre le Front National, puisque lui conteste en justice la procédure qui a abouti à sa suspension?
Alors là, c'est assez difficile à dire, parce que quand on se penche sur les statuts, on s'aperçoit qu'il est écrit noir sur blanc dans ces statuts que le Front National peut suspendre temporairement un de ses membres. Le bureau exécutif, le gouvernement, si vous voulez, du Front National, peut, c'est écrit, faire rendre compte à un de ses adhérents de ses actes. Il peut, sur proposition de son président et à la majorité, suspendre provisoirement ou même exclure un de ses membres. Donc quand on lit ça, on se dit qu'a priori, ben Jean-Marie Le Pen peut être suspendu. Mmh. Sauf que Jean-Marie Le Pen, vous savez, était président d'honneur du Front National. Et là-dessus...
Enfin, il l'est toujours. Hein.
Il est d'ailleurs, il l'est toujours encore. Là-dessus, il y a un flou, parce que dans ces statuts, il n'y a rien qui concerne la destitution possible d'un président d'honneur. Mmh. Et en fait, Jean-Marie Le Pen, qui est assez malin, avec son avocat, compte jouer sur cette ambiguïté devant la justice, en disant il n'y a rien qui stipule que le président d'honneur peut être destitué. Donc il va défendre ça devant la justice. A priori, il y aura une première audience vendredi. A priori, ça sera mis en délibéré dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et vous savez, au Front National, on dit, bah, une fois que le délibéré tombera, nous, la décision sera déjà tombée, on l'aura sans doute déjà destitué, du moins de son titre de président d'honneur. Donc du coup, que la justice décide de le destituer, on s'en moque un petit peu. Et d'ailleurs, dans le camp de Jean-Marie Le Pen, aujourd'hui, on commence à dire qu'on veut peut-être pas aller au bout de la procédure et qu'on respectera le vote des militants. C'est-à-dire que vous savez, les militants vont voter le mois prochain, enfin d'ici un mois. Jean-Marie Le Pen dit aujourd'hui, si les adhérents ne veulent plus que je sois dans le parti, eh bien je quitterai le parti.
Ce sont les militants qui décideront, qui trancheront de l'avenir de Jean-Marie Le Pen au sein du Front National, en tout cas à son poste de président d'honneur. Pierre Firsion ?
Oui, j'avais juste un petit dernier mot, parce que c'est dans l'actualité, je ne sais pas si vous avez vu, hier, Jean-Marie Le Pen, on disait, réfléchit peut-être à créer cette formation politique, juste il y a ce souci judiciaire qu'il poursuit, hein, parce que vous avez vu qu'une enquête pour blanchiment de fraude fiscale sur des présumés comptes en Suisse a été ouverte hier par la justice. Du coup, sur le plan judiciaire, je pense qu'il peut y avoir quelques inquiétudes, parce que notamment ces comptes en Suisse, on parle de 2,5 millions d'euros, et on parle notamment de lingots d'or. Ça pourrait faire tâche pour Jean-Marie Le Pen et pour la suite de sa carrière politique.
À suivre donc. Pierre Firsion du service politique d'RFI. Voilà Célestin, bonne journée à vous et merci de nous écouter à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il est 8h17. On va s'intéresser maintenant à l'Ukraine. On a une question qui nous vient du Congo-Brazzaville. Bonjour Jean-Aimé.
Bonjour Monsieur Warren.
Vous nous appelez de Pointe-Noire. On vous écoute.
Exact. J'appelle de Pointe-Noire au bord de la mer, de l'océan Atlantique.
Oui.
Alors, j'ai appris Monsieur Van Gomez par Média Fontaine que Monsieur Saakashvili a été nommé gouverneur de la ville d'Odessa. Alors ma question est celle-ci. Comment un ancien président d'un pays indépendant a pu devenir gouverneur dans un autre pays?
Alors ça, c'est une très très bonne question. C'est vrai que le réseau téléphone n'est pas très bon avec Pointe-Noire, mais c'est vrai que cette nomination est surprenante. Le président ukrainien qui nomme l'ancien chef de l'État géorgien gouverneur d'Odessa. Alors d'Odessa, c'est une région qui est située au bord de la mer Noire. Bonjour Elena Gabrielian.
Bonjour Juan.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à la rédaction russe d'RFI. Comment expliquer une telle nomination?
Avant tout, il faut dire que cette nouvelle était absolument inattendue pour la Géorgie aussi bien que pour l'Ukraine. Et ce grand ami d'Ukraine, comme on l'appelle aujourd'hui dans sa nouvelle patrie, Saakashvili habite à Kiev depuis l'automne dernier. Et fin mai, il arrive à Odessa en tant que gouverneur de cette région, la plus grande de l'Ukraine. Et c'est même lui qui aurait demandé au président ukrainien d'occuper ce poste, le poste qui, paraît-il, est actuellement plus convenable pour l'ex-président que les bureaux ministériels, puisqu'il faut dire que le président ukrainien lui avait déjà proposé d'occuper le poste du vice-premier ministre ou bien se mettre à la tête de l'autorité pour la lutte contre la corruption. Des missions très lourdes au niveau national que Saakashvili avait refusées. « Je ne voulais pas devenir un homme politique ukrainien », avait-il expliqué à l'époque. Mais faire de la politique en Géorgie, actuellement, il ne peut pas non plus. On se souvient, après l'arrivée au pouvoir en 2004, il a réussi d'effectuer des réformes et lutter contre la corruption dans son pays. Mais aujourd'hui, lui-même, il est inculpé pour abus du pouvoir et détournement de fonds budgétaires, ce que Saakashvili qualifie comme des inculpations pour des motifs politiques.
Ouais. Donc il est poursuivi dans son pays, en Géorgie, par la justice. Du coup, il se réfugie, on va le dire, en Ukraine. Et le président ukrainien, qu'il connaît depuis très longtemps, puisque je crois que les deux hommes se sont rencontrés sur les bancs de l'université de Kiev, puisque l'ancien président géorgien a fait ses études en Ukraine. Donc il y a une amitié qui
soude, de longue date,
hein, qui soude dissoudre ces deux hommes. Enfin, de là à nommer un ancien président géorgien à la tête d'un gouvernorat ukrainien, il y a quoi? Il y a des ambitions derrière. Il y a un calendrier caché. L'idée, c'est de gêner les Russes.
Il faut savoir qu'il y a plusieurs facteurs qui ont fait que Saakachvili est arrivé à Odessa. Mais avant, juste une petite explication de l'aspect technique. En février dernier, Tbilissi avait demandé à Kiev l'extradition de Saakachvili. Une demande que l'Ukraine ne peut pas satisfaire aujourd'hui, puisque l'ex-président géorgien est devenu citoyen de l'Ukraine, ce que lui a fait perdre son passeport géorgien. Et la constitution de l'Ukraine interdit aujourd'hui d'extrader ses citoyens. Et la nationalité ukrainienne, effectivement, a été une condition obligatoire pour Saakachvili de pouvoir entrer en exercice. Donc, pour répondre à la question de la motivation de Saakachvili, il y a plusieurs facteurs. D'abord, le prédécesseur de Saakachvili, Igor Palitsa, s'est montré inefficace sur son poste, et c'est un proche de l'oligarque controversé Igor Kolomoïski qui est entré en bras de fer avec le gouvernement ukrainien, et donc il a été démis de ses fonctions suite justement à un bras de fer avec les autorités ukrainiennes pour le contrôle d'actifs pétroliers. Et donc la région d'Odessa est aussi, il faut dire, une des plus corrompues de l'Ukraine, et à Kiev on voyait la présidence de Saakachvili comme un success story pour son pays.
C'est vrai que quand il était à la tête de la Géorgie, il a su endiguer le phénomène de corruption.
Oui, absolument, et on pense que sa gouvernance peut également être positive pour Odessa, une région clé pour l'avenir de l'État, puisque président Porochenko lui a également fixé un autre objectif de préserver la souveraineté, l'intégrité territoriale et le calme dans cette région. Pour le moment, les Odessites résistent aux pulsions séparatistes, mais la situation reste très tendue. Juste à côté, il y a dans l'ouest, il y a la Transnistrie, région sécessionniste de la Moldavie où sont basées les troupes russes. Mmh. Et selon Saakachvili, Vladimir Poutine voit Odessa, d'ailleurs une ville fondée par Catherine II à la fin du XVIIIe siècle, comme une ville importante de son projet Novorossiya qui englobe aujourd'hui les républiques autoproclamées de Donetsk et Lugansk. Et si Odessa tombe dans les mains des séparatistes, cela permettrait à Moscou d'établir un corridor reliant la Russie à la région séparatiste transnistrie.
D'accord, donc si je comprends bien, la mission de l'ancien président géorgien sera de faire barrage aux ambitions, à l'hégémonie de Vladimir Poutine et son projet donc de Novorossiya. Merci beaucoup.
Et de lutter contre la corruption.
Lutter contre la corruption, mission. Ça c'est la mission effectivement officielle. Merci Elena Gabrielan du service russe des RFI. Jean Aimé, bonne journée à Pointe-Noire. Je vois Alejandro Valente entrer dans ce studio. Il s'installe tranquillement. Bonjour Alejandro.
Bonjour Juan.
Vous êtes le chef du service des sports des RFI, on croule sous les questions concernant les scandales qui touchent de près ou de loin la FIFA, la Fédération Internationale de Football. Silva, bonjour.
Bonjour, Al.
Vous êtes à Lomé, on vous écoute.
Tout à fait. À propos du scandale de la corruption au sein de la FIFA, Juan, lors des éliminatoires du Coupe du Monde 2006, on se rappelle de la main flagrante de Thierry Henry. Alors, j'aimerais savoir pourquoi l'Irlande n'avait-elle pas exercé de recours.
Alors, on rappelle quand même, puisque vous posez votre question, puisqu'on a appris Alejandro Valente que la FIFA avait acheté le silence de l'Irlande après la main de Thierry Henry, main qui avait permis à la France de se qualifier pour la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. Que sait-on exactement de cette affaire?
Oui, déjà, il faut pas trop mélanger les choses. Là, on n'est pas dans des affaires de pots de vin ni de corruption. Là, on est dans une autre histoire.
Mais qui est révélatrice quand même des pratiques de la FIFA.
Oui, d'accord, c'est vrai, mais c'est quand même pas le même type d'affaire. Là, on est sur un match, effectivement, un match de barrage qui devait désigner qui de l'Irlande ou la France aurait un ticket pour la Coupe du Monde en Afrique du Sud. On se rappelle que finalement c'est la France qui s'est qualifiée à l'issue d'un double match à suspense avec un but inscrit par William Gallas après une passe de Thierry Henry qui avait contrôlé le ballon de la main avant de pouvoir lui adresser la passe. Donc il y avait manifestement erreur d'arbitrage, l'arbitre n'avait pas vu ces faits de jeu. les scores a été validé à l'issue du match. Et donc, évidemment, les Irlandais ont protesté, ont estimé qu'ils s'étaient fait voler.
Ils avaient même demandé, si ma mémoire est bonne, à ce que le match soit rejoué.
Voilà, ils avaient demandé tout ça. Finalement, rien de tout ça n'a eu lieu. Comme d'habitude, dans ce genre d'affaires, dans des matchs à polémique où l'arbitre a omis de signaler une faute, la FIFA a donné raison à son arbitre, malgré son erreur. Et donc, la France s'est qualifiée pour la Coupe du Monde de 2010 au détriment de l'Irlande. Alors, évidemment, les Irlandais ont beaucoup protesté, ont estimé que c'était du vol, etc. Thierry Henry a été traité de tous les noms, etc. Et donc, c'est qu'on apprend aujourd'hui par la voix du président de la fédération irlandaise, John Delaney, c'est qu'à l'époque, donc, il avait été reçu par Blatter et très vite, la fédération irlandaise avait reçu un prêt des 5 millions d'euros. Plus 400 000 dollars dans le cadre du projet Gaulle, donc un peu plus de 5 millions d'euros. Alors, lui, il dit c'est pour éviter que l'Irlande aille devant les tribunaux. Ça paraît quand même étrange dans la mesure où la FIFA n'admet pas la compétence des tribunaux pour décider des erreurs d'arbitrage. Si on faisait ça, on ne saurait jamais qui est qualifié, qui est éliminé, parce qu'on aurait tout le temps des procès interminables. Donc, c'est pas la logique de cette affaire. Je pense que la FIFA probablement, parce que la FIFA ne s'est pas expliquée sur ce dossier, la FIFA a probablement voulu calmer un peu les Irlandais qui protestaient beaucoup dans les médias.
Donc, indirectement, la FIFA a acheté le silence.
Calmer les choses. Alors, ce qui est étrange, c'est que le président de la fédération se vante un petit peu d'avoir obtenu un très bon arrangement, mais il n'est pas exempt de tout reproche, parce que si arrangement il y a eu deux parties, donc lui-même a été partie prenante dans cette affaire. Donc
et on parle de prêt, et en même temps, je crois que l'Irlande n'a jamais
le prêt est devenu don finalement.
Un don. Donc voilà, finalement, exactement. Ce prêt n'a jamais été remboursé.
Mais on n'est pas du tout dans le même type d'affaires qu'on évoque depuis les débuts de ce dossier.
Eh bien, vous voulez parler d'affaires qu'on évoque et qui intéressent tout le monde. On va en parler avec Melvis, qui nous appelle du Congo. Bonjour Melvis.
Bonjour Juan.
On vous écoute, soyez le bienvenu.
Bonjour Juan, bonjour à Alexandre Valenté et à toute l'équipe de Appel sur l'actualité. J'ai deux questions qui portent sur l'attribution du Mondial 98 à la France. La première est de savoir quels sont les faits de corruption qui entachent l'attribution de cette Coupe du Monde 98. Mmh. Et la deuxième est de savoir quelles sont les personnes impliquées pour cette Coupe du Monde et si Platini faisait aussi partie.
Platini qui était à l'époque à la tête du comité d'organisation français. Le Maroc est accusé, Alejandro Valente, d'avoir versé des pots de vin pour que le Mondial 98 soit organisé chez lui.
Voilà, pour résumer l'affaire, donc le 2 juillet 92, la France se voit attribuer la Coupe du Monde 98 pour laquelle elle était en concurrence avec le Maroc et la Suisse. Alors la France s'impose assez largement, 12-7. Aujourd'hui, il y a Chuck Blazer, un ancien président de la CONCACAF, la fameuse CONCACAF dont on parle beaucoup, qui dit avoir été témoin d'un acte de corruption, à savoir un membre du comité exécutif aurait reçu de l'argent du Maroc pour voter pour le Maroc. On pense évidemment à l'inévitable Jacques Warner. Et effectivement, Jacques Lambert, le président, le directeur général du comité d'organisation français à l'époque, s'en est expliqué. Il a dit qu'effectivement, Warner avait promis de voter pour la France, mais après les votes, ils ont fait un peu le décompte et ils ont compris qu'il avait voté pour le Maroc. Donc ça peut évidemment confirmer ça. En tout cas, la France n'a jamais été accusée de quoi que ce soit, donc c'est éventuellement une voix qui aurait été achetée par le Maroc. Les Marocains n'ont pas voulu parler de cette affaire ni d'aucune autre.
D'ailleurs, c'est silence radio au Maroc depuis ces révélations.
Grosso modo, ils disent qu'ils attendent la fin des enquêtes en cours, que ce soit aux États-Unis ou à la FIFA, avant de se prononcer sur cette affaire ou sur toutes les autres affaires dans lesquelles le Maroc apparaît cité. Donc, on ne peut pas dire que l'attribution du Mondial 98 à la France ait été entachée dans la mesure où cette voie n'aurait rien changé, qu'elle ait été pour le Maroc ou pour la France. Et donc voilà, pour l'instant, on en est là.
Voilà, en tout cas, ce que dit la justice américaine, c'est que le Maroc a effectivement mis sur la table plusieurs millions de dollars. On parle de 8 millions. Alejandro Valente, merci beaucoup.
Merci à vous.
Restez avec nous, soyez fidèles à RFI, tout de suite le journal, et on revient dans 10 minutes. Priorité.